RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. On vient de discuter pendant une heure d'adaptation au changement climatique. Je vous propose jusqu'à 11h de faire un petit pas de côté à l'occasion de la 25e édition de la semaine du jardinage pour les écoles qui se déroule jusqu'au 23 mars dans toute la France. Quels sont les bienfaits du jardinage pour les plus jeunes? En quoi c'est une manière de les éduquer à la nature et donc aux questions écologiques? On en parle avec nos invités. Vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Si vous avez l'occasion, vous, de jardiner avec vos enfants, avec vos petits-enfants, qu'est-ce que vous constatez? Quels sont les bienfaits du jardinage pour eux? Et si vous travaillez dans le domaine de l'éducation, est-ce que vous participez d'une manière ou d'une autre à cette semaine du jardinage pour les écoles? Venez témoigner avec vos témoignages et bah, bien sûr, si vous venez témoigner, vos réactions également par téléphone au 04 72 38 20 23, par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et nos deux invités jusqu'à 11h, je vous les présente. Tout d'abord, Mathieu Bellet, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre participation. Vous êtes le co-directeur du réseau FREN. C'est le réseau français d'éducation à la nature et à l'environnement qu'on appelait avant le réseau École et Nature et qui a donc changé de nom il n'y a pas longtemps.
Oui, tout à fait. Oui, on a fêté nos 40 ans l'année dernière et on a changé de nom puisque le réseau École et Nature était à l'origine tourné principalement vers le public scolaire. Aujourd'hui, on a élargi la question sur l'ensemble des publics et des questions de transition écologique, d'où ce changement de nom qui a eu lieu il y a 2 ans maintenant.
Mmh. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. On va pouvoir évoquer ensemble les actions de votre réseau. Avec nous également Jean-Sébastien Griffaton. Bonjour.
Bonjour Melchior.
Merci
d'avoir... En direct d'Angers.
Eh ben voilà, vous avez tout dit. Merci à l'équipe de RCF Anjou qui vous accueille en studio. Vous êtes le directeur de Radis et Capucines. Et si vous êtes là ce matin, c'est aussi parce que vous représentez l'interprofession Valor, de l'interprofession de l'horticulture, de la floristerie et du paysage. Valor et Semae qui organisent donc l'édition 2024 de la semaine du jardinage pour les écoles. Là aussi, ça fait quelques années qu'elle existe cette semaine, Jean-Sébastien.
Ça fait 25 ans, effectivement. Ah bah voilà. C'est la 25e année, du 18 au 23 mars 2024. Donc, on vient de commencer. Les enfants, les classes d'école maternelle et primaire vont être accueillis gratuitement dans les jardineries pour faire des ateliers de découverte du jardinage, découverte des plantes. On aura le temps d'en discuter pendant cette heure, mais c'est une belle opération qui est effectivement financée par deux interprofessions, l'interprofession des semenciers et l'interprofession du végétal.
Voilà, vous avez dit beaucoup de choses. Plus d'un million d'enfants de 4 à 10 ans qui ont été initiés au jardinage grâce à cette semaine, hein, depuis sa création.
Oui, alors quelques chiffres, effectivement. Oui. On est sur 1 million 2 depuis 25 ans. C'est tous les ans à peu près 500 établissements recevant du public, donc essentiellement des jardineries, des fleuristes, qui accueillent des classes maternelles et primaires qui se sont préinscrites à l'avance. La semaine du 18 au 23 mars, elles viennent donc en jardinerie. Elles sont accueillies sur 8 thèmes d'ateliers, des ateliers qui sont autour des plantes. Je peux vous en citer quelques-uns. Nous avons par exemple la plantation des fleurs, une jardinière de plantes aromatiques, la plantation d'un fraisier, le semis de légumes. De nouveau, ateliers cette année qui est la réalisation de composition florale et les arbres et arbustes et leur impact sur la biodiversité. Les enfants sont pris en charge par des professionnels. Je répète encore une fois, tout est gratuit. Hein. Ouais. Les professionnels leur expliquent, leur montrent par le vivant les principes de botanique, comment se nourrit une plante, comment, la terre, l'eau, la plante, les racines, la tige, les feuilles, les fleurs. Et puis après, ça finit par une activité manuelle, qui est souvent du semis ou de la plantation, parce que les enfants adorent pratiquer, mettre les mains dans la terre. Mmh. Les enseignants repartent avec un kit pédagogique pour pouvoir prolonger après. Donc avec souvent à la clé des projets nature dans la cour de récréation à l'intérieur des écoles.
Un événement qui est très complet, on l'entend en tout cas, Jean-Sébastien Griffaton. On va prendre le temps justement d'entrer un petit peu dans tout ce que vous organisez jusqu'au 23 mars. Mathieu Bellet, pourquoi d'après vous c'est important de parler du jardinage aux plus jeunes, ou en tout cas de faire en sorte qu'ils s'essayent au jardinage?
En fait, c'est une excellente manière de rentrer en contact avec le vivant, avec la nature, et cela en fait, c'est extrêmement important aujourd'hui de renforcer ce lien entre les enfants et même tous, mais les enfants en particulier, et la nature, et d'aller sur une activité de jardin va être une manière de le faire de manière régulière, récurrente, souvent à proximité de l'école. Nous, on met cette pratique comme une des manières de faire école dehors, qui est une pratique qu'on préconise depuis pas mal de temps. Et du coup, le faire à travers le jardin, ça va tout de suite apporter quelque chose de concret à cet enseignement dehors. Et alors après, on peut décliner pédagogiquement énormément de choses, hein. Il y a bien sûr tout l'aspect nutritionnel déjà, puisque on a tous besoin de se remettre un petit peu en contact avec nos aliments non transformés, et de les voir pousser, d'apprendre d'où vient la nourriture, comment est-ce que ça se cultive, et puis d'avoir cette notion aussi d'alimentation saine. Il y a l'approche, on en reparlera, je pense, sensibilisation à l'environnement. Oui. Bon, déjà au principe écologique, mais vous en parliez tout de suite, hein, l'eau, la terre, le développement d'une plante, les saisons. C'est tout cet aspect biologie, science de la vie, science de la terre. Et puis il y a l'apprentissage pratique. On est dehors, on est dans le corps, on est dans tous les sens, on va vraiment développer la personne en entier. On creuse, on gratte, on plante, on manipule, on coupe, et ça c'est autant d'apprentissage pratique, de techniques pratiques qui sont intéressantes de travailler. Et enfin, il y a une approche aussi intéressante dans le point de vue social, vivre ensemble, construction du groupe. On se rend compte que les activités dehors, et donc le jardin en particulier, mais va renforcer les liens, oui. Va créer quelque chose de la coopération, va être beaucoup plus naturelle et facile et essentielle dans la pratique de ce type d'activité. La relation avec l'enseignant aussi et avec les adultes présents va aussi on va voir qu'il y a un décalage qui se construit lorsqu'on est sur une pratique de l'enseignement dans un cadre extérieur par rapport à ce qui peut se passer entre quatre murs. Oui, un ensemble de faisceaux, oui. d'éléments qui sont extrêmement intéressants, et d'aller dehors pour enseigner dans un potager en particulier va ouvrir vraiment des espaces différents qui sont extrêmement complémentaires de ce qu'on peut vivre à l'intérieur d'une classe. Il ne faut vraiment pas négliger dans l'apprentissage des élèves et dans leur éducation de manière générale.
Ouais, c'est du concret, et c'est vraiment ce que vous dites. Vous l'avez dit aussi, Jean-Sébastien Griffaton, c'est-à-dire que ça permet déjà aux jeunes de sortir un peu de leur classe, d'aller découvrir d'autres choses, et donc d'aller découvrir aussi des professions, le monde du jardinage, et avec toutes les différentes branches, sans mauvais jeu de mots, mais c'est très concret, Jean-Sébastien.
Oui, cette opération est une opération qui permet effectivement à certaines écoles en milieu urbain de faire une sortie pour la nature. Il y a des écoles qui feront 500 mètres, 1 km à pied à queue leu leu pour venir à l'opération. Donc c'est quelque chose qui est très bien organisé. Je voudrais revenir un peu plus en amont, pourquoi cette opération et pourquoi faire jardiner les enfants. Oui. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 16 millions de jardiniers actifs, une population de 60 millions, donc en fait ça touche quand même beaucoup de monde. C'est-à-dire que vous avez toujours un parent ou un grand-père, une grand-mère, une mère, qui a une connaissance à transmettre. Donc le jardinage, c'est aussi de la transmission intergénérationnelle. C'est aussi un lien avec des grands-parents. Donc c'est important, ça permet d'établir un dialogue, de le continuer, de le prolonger, de l'approfondir sur une autre thématique avec ses grands-parents. ce sont des choses qui sont très affectives. Une plante, c'est quelque chose qui est vivant. Donc, apprendre à un enfant que la plante a un cycle de naissance, un cycle de croissance, qu'il faut en prendre soin, qu'elle poussera mieux si on s'en occupe, qu'elle est fragile. Et c'est, les manipulations de transplantation sont importantes pour ça, pour montrer la fragilité d'un jeune plant. Ça permet également d'aborder des notions connexes qui sont la terre et l'eau. Parce qu'une plante sans terre, la terre, enfin, très schématiquement, la terre c'est la nourriture et l'eau c'est la boisson. C'est plus complexe que ça, mais ouais. on le comprend bien comme ça. Donc ça permet d'aborder les notions de terre et les notions de la gestion de l'eau. Et dernier point, et c'est un petit lien par rapport à la discussion que vous aviez l'heure précédente sur la gestion de l'eau en milieu urbain, vous savez que... Les villes ne possèdent que 20% des parcs et jardins, les municipalités, les collectivités ne possèdent que 20% des parcs et jardins en ville. 80% ce sont les particuliers. Donc en fait, si les enfants de ces particuliers-là apprennent à l'école à jardiner, à apprécier le vivant, bah forcément ils vont faire passer des messages pour 80% des surfaces cultivées en ville.
Mathieu Bellet, pour le réseau FREN, je reviens un instant hein, sur l'objectif aussi de ce réseau, né en 1983, à l'époque ça s'appelait le réseau École et Nature, mais c'est vraiment né du besoin des enseignants et des animateurs nature, on va dire, de se regrouper pour échanger sur les bonnes pratiques à avoir pour justement éduquer la nature.
Oui, tout à fait. C'est vraiment l'initiative d'enseignants et d'éducateurs nature qui ont ce besoin et qui l'avaient à l'époque et qui l'ont toujours, hein, de se réunir, d'échanger des pratiques et de construire ensemble des dynamiques et des projets. Voilà, c'est notre mission, nous, de tête de réseau associative, d'être à la possibilité d'animer un réseau de professionnels, mais aussi de personnes qui sont des fois dans le champ d'action de l'éducation de l'environnement et de la nature, sans être forcément des professionnels, pour permettre des dynamiques, représenter aussi le secteur et des fois porter aussi un peu une parole publique sur l'importance de l'éducation à l'environnement. Qui est clé, hein, dans enfin il y a 40 ans c'était déjà extrêmement important. Aujourd'hui on voit bien que on n'arrivera pas à faire bouger la société pour réussir les transitions écologiques nécessaires sans éducation de tous et du plus grand nombre, et que cette éducation à l'environnement elle passe en premier lieu par une éducation à la nature, par retisser le lien avec les autres êtres vivants, et ça fait partie d'une des pierres essentielles de l'éducation à l'environnement. Et donc encore aujourd'hui, on voit bien que l'ensemble des acteurs se cherchent à se réunir en réseau associatif. Donc on va trouver bien sûr des centaines d'associations d'éducation à l'environnement en France qui animent avec des écoles, avec du grand public, qui font des séjours, etc. Et puis des réseaux qui s'organisent pour échanger, participer ensemble, s'associer aux politiques publiques. Au niveau des régions, on appelle cela des graines, des groupements régionaux de l'éducation à l'environnement. Et donc au niveau national, c'est le FREN qui fait ce travail de mise en réseau et de représentation.
Jean-Sébastien Griffaton, il y a une thématique pour l'édition 2024 de la semaine du jardinage pour les écoles. Le végétal, c'est notre avenir. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer ?
Oui, les professionnels du végétal, les semenciers et alors moi je représente les semenciers, les paysagistes, les fleuristes, la distribution jardin. Tous ces acteurs-là sont bien conscients du changement climatique et du changement de pratique, et au travers des ateliers, on présente de manière très factuelle des nouvelles pratiques, d'arrosage, des nouvelles pratiques sans pesticides, la notion effectivement d'adaptation du paysage. Vous entendez parler des haies tout à l'heure, ben, ouais. Y a un atelier qui est classiquement, enfin sur les arbustes et sur les haies et sur leur importance, arriver à expliquer aux enfants toute l'importance du végétal dans la captation de l'eau, parce que vous avez l'eau bleue, vous avez l'eau grise, mais vous avez également l'eau verte, l'eau qui est contenue dans les végétaux. Et donc les végétaux apportent de l'eau, apportent de la fraîcheur à la ville. Donc effectivement une thématique qui est forte, c'est les 25 ans. Hein, donc 25 ans, c'est quand même une belle opération soutenue par le ministère de la Transition écologique, avec le label. On va accueillir 2200 classes environ, pendant une semaine. Ouais. Ça fait à peu près 50 000 enfants. Donc 50 000 enfants, c'est à l'échelle d'une ville, à l'échelle, ça peut être beaucoup de classes par ville. Alors c'est essentiellement les jardineries qui accueillent avec leur personnel dans des ateliers qui sont en semaine. Ça peut être aussi des fleuristes, mais l'opération est vraiment à l'initiative des jardineries de France. Elle est soutenue par effectivement les interprofessions, parce que comme des réseaux d'éducation, on a à cœur effectivement de transmettre notre passion. Hein. Mathieu et moi sommes deux personnes très passionnées par ce que nous faisons. On est sur deux sphères qui se croisent pendant cette semaine-là. Mmh. On a vraiment à cœur tous les deux. De transmettre quelque chose qui est une solution de demain. C'est-à-dire que le végétal, le jardinage, c'est pas uniquement ornemental, c'est pas uniquement décoratif. Ouais. C'est la source de l'alimentation, c'est une solution au dérèglement climatique. En tout cas, une partie de la solution.
J'aimerais qu'on parle de l'éducation à l'environnement, plus précisément, Mathieu Bellet, qu'on appelle aussi l'EE. Alors, ça c'est un petit peu changé, ça s'est transformé en éducation à l'environnement et au développement durable. Est-ce que c'est encadré par le ministère de l'Éducation nationale? Est-ce que dans les programmes, il y a peut-être des choses vraiment autour de ça? Mathieu?
Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est, oui, ça s'est appelé en effet éducation à l'environnement vers un développement durable, terme qui s'éloigne de plus en plus hein, de notre vision des choses, puisque le développement durable devient quelque part quelque chose
de dépassé,
qui ne fonctionne pas en soi. On est de dépasser exactement. En tout cas, c'est l'éducation à l'environnement, c'est quelque chose qu'on va retrouver présent dans les programmes scolaires qui vont être transdisciplinaires. Et qu'on va pouvoir voir à l'intérieur de beaucoup de cours, que ce soit à travers l'ensemble des niveaux. Nous, ce qu'on préconise et ce qu'on cherche aussi à créer, alors c'est cette pratique de l'école dehors, de l'éducation dehors, du lien à la nature, qui peut se faire de manière un peu plus récurrente pour les enseignants qui le souhaitent. Il y a des manières de se former, d'apprendre pour pouvoir avoir cette pratique-là. On se retrouve aussi des fois avec un champ qui est un peu partout, et comme souvent c'est des fois un peu partout et un peu trop dilué, et on préconise en tout cas dans l'éducation à l'environnement qu'il y ait dans la mesure du possible, et c'est pas toujours évident malheureusement pour les enseignants, c'est pas toujours aidé, de construire aussi les choses avec le monde associatif, c'est-à-dire que les enseignants en primaire en particulier doivent se retrouver à gérer énormément de sujets, énormément de pratiques, énormément de thématiques, et d'être un peu des experts systématiques de tout, de l'anglais au sport en passant par l'écologie. Oui. Et j'en passe, et c'est vrai que c'est important de pouvoir s'ouvrir à des professionnels, à des experts. Là en l'occurrence c'est une possibilité qui est faite avec les jardins et le monde de l'horticulture, mais de manière générale aussi avec le monde des professionnels d'éducation à la nature et à l'environnement qui vont pouvoir accompagner un enseignant, une classe dans cette pratique d'éducation à l'environnement à travers différentes méthodologies. Nous, on est vraiment à la frontière entre de l'éducation populaire, qui est vraiment nos fibres de départ, notre ADN, qui constitue beaucoup notre manière de voir le monde, le besoin d'informer, d'émanciper et d'être sur du temps long dans l'apprentissage avec les différents publics. Et puis, la protection, évidemment, de l'environnement dans un contexte de crise qui est quand même de plus en plus prégnant pour tous et anxiogène, et du coup qui nécessite aussi d'avoir un accompagnement sur ces sujets qui sont pas évidents à traiter, voilà, avec tout ce qu'on connaît de l'effondrement, de la destruction de la biodiversité et des dérèglements climatiques évidemment.
Je rappelle que vous avez toutes et tous la parole ce matin dans Je pense donc j'agis pour participer. Venez nous parler du jardinage avec les enfants et les plus jeunes. Si vous en faites, vous, du jardinage avec vos enfants ou petits-enfants, venez nous dire ce que ça leur apporte, en quoi ils aiment découvrir, en quoi ils sont curieux. Et puis si vous travaillez dans le domaine du jardinage, dans le domaine de l'éducation également, est-ce que vous participez à cette semaine du jardinage pour les écoles? On vous attend au 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23. Et on va écouter de la musique tout de suite avec Noé Préchaud.
Début et la fin, le chagrin inouï et les joies éternelles, le passé incomplet, l'avenir incertain, ici un coup de feu, là un battement d'ailes, toutes les régressions, toutes les avancées, les mains qui se frôlent sur la banquette arrière, les premières amours et les derniers baisers, le début du parcours et la fin d'une guerre, une chanson qui dirait l'entrée et la sortie, la rage indélébile et la paix qui sommeille, la minute de trop, soudain tout vacille et les heures infinies à fixer le soleil, les écrans que l'on brise et ce que l'on réclame, tout seul à la séance, un soir de nouvel an, la détresse d'un rire, la puissance d'un drame, en un mot la magie d'être toujours vivant, l'énigme profonde, l'intime et le monde, l'énigme profonde. Une chanson qui dirait la nuit qui se déhanche et le jour qui se lève, la tête dans les mains, les vitrines en miettes et le vent dans les branches, les révoltes d'hier et celles de demain, l'adolescence fiévreuse noircissant chaque page pour échapper aux cages que déjà elle pressent, la vieillesse implorant qu'il y ait dans les parages des passants pour lui dire l'heure qu'il est maintenant. Une chanson qui dirait la Méditerranée, les rêves qui prennent l'eau et l'été qui revient, les mêmes affrontements depuis l'éternité, la hache de l'histoire qui brise les destins, l'arrogance d'en haut et la colère d'en bas, les étoiles qui brûlent au-dessus du chaos, les navires immobiles sous le ciel d'Odessa, et Téhéran debout qui chante Bella Ciao. L'énigme profonde, l'intime et le monde, l'énigme profonde. Une chanson qui dirait les mains qui se détachent, le cœur qui ne bat plus comme au premier matin, les chutes qui s'imposent, les victoires qu'on arrache, les voix que l'on oublie et les mots qu'on retient, le désir d'être seul dans une ville inventée, puis d'être auprès des siens parce que tout part en vrille, une partie d'échec au bistrot d'à côté, la violence des frontières, la beauté des pays, le courage de faire et celui de défaire, avoir été si loin et tout recommencer, l'espérance d'une sœur, l'espérance d'un frère, sentir que tout s'écroule et quand même chanter, cette foule euphorique pour un match de foot, la cour de récré à 8h du matin, le chant des certitudes, le vacarme du doute, l'infini de la route, et tes yeux dans les miens, l'énigme profonde, l'intime et le monde, l'énigme profonde, l'intime et le monde.
L'intime et le monde, c'était Noé Préchaud pour vous accompagner en ce mardi matin.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et toujours avec nos deux invités jusqu'à 11h pour nous parler du jardinage pour les plus jeunes et notamment jardinage pour les écoles. Mathieu Bellet, vous êtes le co-directeur du réseau FREN, le réseau français d'éducation à la nature et à l'environnement. Et Jean-Sébastien Griffaton, vous êtes le directeur de Radis et Capucine et vous représentez ce matin l'interprofession du végétal et puis des semenciers qui organisent donc cette semaine du jardinage pour les écoles. Qui a lieu jusqu'au 23 mars. Donc, ça fait 25 ans qu'elle existe, cette semaine. Et elle rencontre chaque année de plus en plus de succès. Vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Sébastien. Comment vous pouvez l'expliquer, ce succès, d'ailleurs ?
C'est aujourd'hui une habitude qui est ancrée dans les programmes, on va dire, dans les habitudes des instituteurs de maternelle et de primaire. Et ça fait que c'est une opération qui est sérieuse, qui est fiable, qui a lieu tous les ans, qui est gratuite, qui est à proximité. Hein. On est vraiment à la jardinerie, à côté, chez le professionnel régional qui est à côté de l'école. Donc c'est aussi rassurant, puisque c'est fait par des personnes qui ont pignon sur rue. C'est aussi quelque chose qui est relayé toute l'année avec un site internet qui s'appelle jardinonsalecole.org qui propose beaucoup de contenu pédagogique de manière gratuite pour tous les enseignants qui veulent jardiner à l'école. C'est également une opération qui donne un kit pédagogique, donc beaucoup de contenu, des affiches pour pouvoir mettre à l'école, des exemples de projets pédagogiques également pour relayer l'information. C'est un sujet qu'on pourra aborder après, mais oui. Ça peut être un sujet intéressant pour Mathieu et moi, c'est finalement expliquer comment on fait un jardin à l'école. Si vous voulez, c'est un sujet qu'on pourra aborder après.
Ouais, parce que vous, Mathieu Bellet, forcément, si vous êtes avec les enseignants, les animateurs nature, vous travaillez cette question sur comment on transmet la passion du jardinage aux plus jeunes. Est-ce qu'il y a des techniques vraiment?
La passion, la technique de passion, déjà. Le fait d'être dehors dans la cour, alors ça nécessite déjà la question du cadre, hein, c'est-à-dire que pour créer cette dynamique, il va falloir déjà choisir un jardin, trouver un jardin, et ça rejoint une dynamique globale de revégétalisation des cours d'école qui est intéressante, qui va à son rythme. Bon, à ce rythme-là, je pense qu'il faudrait peut-être attendre encore 30 ans pour que toutes les cours d'école soient malheureusement débitumées. Mais c'est quand même un courant qui existe, et avec beaucoup de mairies qui se sont mis vraiment à débitumer. Et quand on construit une cour d'école aujourd'hui, je pense que la vision du béton partout s'est terminée. Et c'est vrai qu'on ressent quelque chose qui va créer l'envie, qui est tout simplement d'être dans un espace de nature qui crée du possible. C'est-à-dire que quand on n'a rien, quand c'est que du dur, quand il n'y a pas une branche, il n'y a pas un bout de bois par terre, il n'y a pas une feuille, il n'y a pas un morceau de terre à creuser, une flaque ou quoi que ce soit, on n'a rien d'autre à faire que de crier, courir et pas avoir cette possibilité d'être dans un bien-être que permet le jardin, que permet l'espace de nature aux enfants au quotidien. Et en fait, on va se rendre compte que le fait d'être en extérieur va créer pour les enfants, de manière générale, un contexte qui est beaucoup plus intéressant pour eux, pour apprendre, pour comprendre et pour écouter. Ça va leur permettre moins de bruit, il y a plus de liberté, il y a plus d'autonomie, ça va créer une forme de curiosité, et ça va aussi améliorer leur capacité d'écoute, de créativité, etc. Donc nous on a pu documenter ce genre de bienfaits de l'enseignement dehors à travers des recherches actions participatives où vraiment on perçoit cette plus-value du jardin sur les élèves et donc les mettre dans un climat qui va favoriser l'apprentissage. Après, techniquement sur le jardin, il y a plein de choses à faire, mais je vais laisser dire parce qu'il y a des experts justement pour cette pratique du jardin.
Ouais. Et on va continuer d'en parler dans un instant, ça tombe bien, on doit marquer une petite pause. On vous retrouve dans quelques minutes, Jean-Sébastien Griffaton et Mathieu Bellet. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23 pour participer à cette émission, pour nous parler du jardinage à l'école, jardinage avec les plus jeunes. 04 72 38 20 23, à tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Avec Mathieu Bellet, co-directeur du réseau Fresnes jusqu'à 11h, et Jean-Sébastien Griffaton, directeur de Radis et Capucine, et donc organisateur de la semaine du jardinage pour les écoles. Alors, je me tourne vers vous plutôt, Jean-Sébastien, sur comment techniquement on met en pratique tout ce qu'on s'est dit pendant une demi-heure, comment on fait en sorte que les jeunes découvrent le jardinage. Est-ce que ça demande quelques techniques?
Alors, comment faire un jardin à l'école?
Oui.
On parle essentiellement ici là des écoles maternelles et primaires, bien entendu. Mmh. Après, au niveau du collège, c'est plus compliqué. On est dans un cadre qui est plutôt urbain. Effectivement, avec un problème de bitume, il y a un programme intéressant qui s'appelle le programme Oasis, qui vise justement à débitumer toutes les cours. Mathieu a raison de dire que c'est une démarche longue, et qu'il faut, mais au moins elle a été commencée. Quand on prend cette démarche-là d'installer un jardin, c'est rapidement une question de matériel, de financement. Effectivement, il faut un cadre, mais il faut débitumer, il faut acheter du matériel. Généralement, c'est la mairie qui prend en charge, mais on peut être imaginatif et trouver des actions communes, notamment si l'école est à proximité d'une maison de retraite. C'est intéressant de faire un jardin en commun pour l'intergénération aussi entre l'école et puis et le jardin et les personnes âgées. Alors ça marche beaucoup plus dans les écoles privées, bien entendu, que dans le réseau public, mais on peut être optimiste et vouloir que ça essaime. C'est du matériel qui est généralement surélevé. Donc, on ne retire pas le béton pour mettre de la terre, généralement. C'est des choses qui sont mises hors sol, donc ce qu'on appelle des carrés de jardin. Donc, c'est des carrés surélevés pour que l'enfant soit à hauteur, c'est plus facile. Je préconise aussi du matériel qui puisse être roulant, puisque le jardin, ce n'est pas uniquement au printemps à l'extérieur. Ça peut être tout au long de l'année et même en plein hiver, on peut faire du jardinage. On peut faire pousser des champignons à l'intérieur. On peut faire pousser des bulbes. On peut faire pousser des aromates. Mmh. On peut faire également pousser, soit semer des graines d'arbres ou replanter des plants d'arbres pour expliquer aux enfants tous les enjeux autour de la reforestation, oui. Pourquoi les forêts brûlent, comment est-ce qu'on peut aider à ce que les forêts se régénèrent. Le jardinage, c'est certes de l'alimentaire, mais pas que.
Pas uniquement.
Pas que. On peut ouvrir à des champs beaucoup plus larges. On peut faire pousser des graines de lin. Du lin bleu et puis fractionner la tige et montrer la fibre pour expliquer l'alternative au coton. On peut faire pousser des légumineuses. Des légumineuses, donc c'est petits pois, haricots, pois chiches pour expliquer les alternatives à la consommation de la viande. On peut avoir des pratiques d'arrosage raisonnées avec des olas ou des zoyas, donc des petites citernes en terre cuite enterrées pour économiser l'eau pour, ouais. Pour montrer que j'irais toute la gestion de l'eau, avoir un bac à récupération d'eau. Le jardin, c'est souvent également la piste vers un composteur. Pour tous les déchets verts. Comment est-ce qu'on gère les déchets verts? Comment est-ce qu'ils se désagrègent? C'est la piste également pour apprendre, pour montrer tous les insectes et les animaux amis du jardin, donc les abeilles, les papillons, la pollinisation.
Ouais. C'est ce qu'on appelle aussi le jardin pédagogique, hein, je crois, Mathieu Bellet, des jardins pédagogiques qui se mettent en place petit à petit, ça prend du temps, mais proche des établissements scolaires. Ça, c'est quelque chose que vous observez, vous, au sein du réseau Fresnes?
On l'observe, alors ça fait longtemps hein, qu'on parle,
oui.
On parle d'un événement qui a 25 ans. Le réseau avait documenté le Jardin des Possibles. On voit aussi qu'il y a d'autres dynamiques autour de l'école jardinière portée par WWF. Donc il y a un certain nombre de dynamiques collectives, de documentation et de manières de faire. Nous, ce qu'on remarque, c'est la nécessité de créer autour des écoles des coins de nature. Jardin, terrain vague, espace de bois, espace de rivière, pour avoir des pratiques pédagogiques de connexion à la nature et d'expérience de nature à l'école avec le public scolaire. Alors, quand c'est dans la course, c'est pratique. Quand on est en dehors de la course, ça peut être aussi intéressant, parce qu'on a parlé du déplacement tout à l'heure, et puis de l'aspect peut-être un peu plus aventure qui peut être intéressant. Et systématiquement, quand on va voir ces coins de nature, on va voir que le jardin va s'y installer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir envie de planter des trucs et de les voir évoluer. Et puis, si en plus, à la fin, ça se mange, bah,
C'est
c'est vrai
encore
qu'on
mieux.
aura fait quand même le tour de... C'est encore mieux. Et qu'est-ce qui a de meilleur goût qu'une tomate cerise, que si, qu'une tomate cerise qu'on a pu cultiver nous-mêmes? Alors ça ajoute une difficulté, hein, parce que pour les enseignants, il y a la question des temps creux, il y a la question de l'été, enfin, c'est-à-dire qu'il faut y aller, quoi. Et alors du coup, ça crée des démarches partenariales qui sont extrêmement intéressantes. Jean-Sébastien en parlait, hein, ça peut être une maison de retraite, ça peut être des associations, ça peut être ce qui
Oui.
se passe au périscolaire, et au quartier, en fait, les parents. Et donc l'espace de nature, le coin de nature en ville à côté de chez nous, va devenir un lieu collectif, parce qu'il va bien falloir qu'on s'en occupe. Alors dans un premier temps, c'est souvent les enseignants, hein, qui se retrouve à faire quand même pas mal d'heures sup pour aller éviter que les enfants soient déçus en voyant que tout a brûlé pendant le week-end en période de sécheresse. Mais au fur et à mesure, il peut se créer vraiment une dynamique collective qui est intéressante. Et du coup, c'est la dynamique des jardins partagés quelque part
C'est
qui se
ça.
crée et des espaces collectifs. Alors c'est pas évident, mais ça nécessite un travail partenarial. Et en fait, c'est ça aussi qui nous semble vraiment intéressant, c'est de reconstruire un peu autour de ces espaces de coins de nature, de jardins, des dynamiques de cité, des dynamiques de collectif qui cassent un petit peu les cloisons des choses qui sont l'école, c'est l'école, en dehors de l'école, c'est en dehors de l'école, quoi.
J'aimerais qu'on écoute Geneviève au 04 72 38 20 23. Bonjour Geneviève.
Bonjour, bonjour. Oui, je voulais simplement témoigner d'une, enfin, vous parler d'une association qui s'appelle l'École Comestible et qui éduque les enfants à l'alimentation, en fait.
Oui.
Et c'est vrai que il y a un engagement aussi de la part des enseignants parce que c'est leur objectif, c'est de faire découvrir aux enfants à l'école la richesse de la terre à l'assiette. Donc,
L'école comestible, hein, c'est le nom de cette association.
oui, c'est ça, c'est l'école comestible. C'est l'éducation enfin, pour les enfants, des bienfaits, des bons produits qui
Oui.
peuvent eux-mêmes voir grandir éventuellement dans un potager à l'école.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup Geneviève d'être venue à l'antenne pour nous parler de cette association écolecomestible.org pour en savoir un peu plus. Est-ce que vous connaissez, Mathieu Bellet, cette association?
J'en ai entendu parler, je la connais pas bien, mais je crois que Jean-Sébastien, ça l'a fait tout de suite réagir.
Alors Jean-Sébastien, est-ce que vous connaissez?
Oui, je connais. C'est une démarche qui est très intéressante. Je voulais aussi intervenir sur voilà, pour un peu déculpabiliser les écoles en milieu urbain. Le jardinage, ce n'est pas que pour les écoles de province qui sont entourées d'arbres et qui ont une approche privilégiée par rapport à la nature. On peut jardiner partout. Voilà. Et même dans un environnement urbain qui est extrêmement bitumé, les professionnels du végétal ont mis en place. Enfin, il y a des cultures en jardinière qui fonctionnent très bien. Il y a des plantes qu'on appelle retombantes ou grimpantes. Donc, on peut faire un jardin vertical, complètement vertical. J'ai en tête une école qui est vraiment dans un immeuble qu'avec des balcons et impossibilité de faire quoi que ce soit. Et on est avec des superbes jardinières, avec des plantes retombantes et montantes. Il faut savoir aussi que les plantes retombantes et montantes peuvent être nourrissantes, hein. Vous avez donc, on parlait de la tomate cerise qui peut effectivement être retombante. C'est aussi la culture, par exemple, de certaines plantes qui poussent très vite, comme le houblon. Et qui peuvent apporter une ombre. Donc, pour toutes des écoles qui souffrent de la chaleur, ça
Ah
peut
oui.
faire, j'irais le végétal, le jardin à l'école en vertical, le long de la paroi, peut apporter également en été une source de rafraîchissement naturel. J'entendais votre mère qui demandait
Alors, vous, le
dont les
maire,
parents demandaient l'installation de la clim. Il vaut mieux faire un jardin.
C'était pas ma mère, c'était le maire de Bure-sur-Yvette, hein,
Le maire,
dans les Sables.
le
Oui.
maire. Pardon.
Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Vous êtes à l'antenne, on vous écoute.
Alors, bon, j'appelais parce que le sujet rejoint un peu l'objet de la fédération que je préside, la Fédération française Jardin Nature Santé, qui au départ est une fédération qui fédère en fait les professionnels et les praticiens du soin et du monde vert, notamment dans les jardins thérapeutiques. Voilà. Nous correspondons avec plein d'autres associations, dont celle de Mathieu, qui est en ligne là, oui. Et que je salue. En fait, je voulais juste intervenir pour dire et pour confirmer que l'aspect intergénérationnel des enfants, des élèves de maternelle ou primaire dans les EHPAD, puisque nous intervenons beaucoup dans les EHPAD, pas que, mais beaucoup, eh ben, ça a un effet tout à fait positif. Le fait que des enfants de 4-5 ans jardinent avec des personnes âgées ou des patients, il y a aussi un effet de lien social qui est parfaitement bénéfique, quoi. Et que ça aussi, c'est ce que le jardin peut apporter. Parce que le jardin, en fait, on peut y faire toutes activités. Il suffit, comme disait notre ami, là, de mettre des bacs à différentes hauteurs. Eh ben, en fait, lorsque, même si ça dure que 10 minutes, planter des bulbes ensemble, ramasser des fraises, il y a cet aspect-là. Et puis, l'aspect de ce qu'on appelle la sensorialité, l'exercice des cinq sens, qui n'est pas simplement goûter, ça c'est très important, mais qui est aussi apprendre à sentir, apprendre à toucher, il y a quand même, et puis entendre les bruits de la nature, et ben tout ça concourt quand même au bien-être et au mieux-être. Voilà.
Merci Philippe, merci beaucoup d'être venu à l'antenne pour nous parler de cette Fédération française Jardin Nature et Santé que vous connaissez, Mathieu, je vous ai vu au Pinet du Chef.
Oui. Tout à fait. Bonjour Philippe. Oui, ça fait faire un pont extrêmement intéressant sur les questions de santé. C'est-à-dire que nous, dans un premier temps, on voit éventuellement les intérêts éducatifs et pédagogiques de ces pratiques. Mais en fait, on a aussi déterminé aujourd'hui une vraie question de santé publique sur l'absence de contact avec la nature. Il y a un certain nombre de recherches, de publications qui ont témoigné un faisceau de preuves qui ont été mises en avant par un journaliste américain qui s'appelle Richard Louv et qu'on peut mettre sous la terminologie de syndrome de manque de nature, qui montre que cette déconnexion de la nature qui est liée à plein de raisons, hein, la crainte de la nature, l'éloignement des espaces de nature, les écrans, etc., font qu'on voit que sur la santé mentale en particulier, troubles de l'attention, de l'humeur, l'anxiété, le niveau intellectuel, etc., et aussi sur un certain nombre d'éléments physiques, hein, l'obésité, la myopie, l'attention artérielle, cette absence de nature va créer des problèmes, des pathologies. Et du coup, dans une idée de prévention de ces maladies et de bien-être de l'ensemble de la population, aller dans la nature, avoir des contacts réguliers avec la nature, va être vraiment très important. Et le potager, ça en fait vraiment une pratique très très saine pour soi dans un quotidien de pouvoir avoir cet espace-là, cette bouffée d'air et de verre est vraiment précieux.
Je crois aussi que vous connaissez Jean-Sébastien Griffaton, cette fédération. Alors bon, on sort un petit peu du sujet, mais on sent aussi à quel point c'est un vrai sujet éducatif.
Oui, l'orthothérapie, parce que c'est par ce terme-là qu'on désigne de manière générale ces différentes associations, et vraiment c'est très très vertueux. C'est très vertueux. Alors aujourd'hui, ils sont en train de... ça manque de publications scientifiques pour pouvoir être labellisés et puis pouvoir être financés d'un point de vue global. Mais il y a des superbes initiatives au niveau local. Qui sont faites, et avec alors on revient encore avec des matériels surélevés, on revient avec des choses qui sont verticales, des adaptations à l'handicap. On parle aussi de motricité fine, j'irais de l'action des doigts dans la terre auprès du végétaux. L'intergénération, c'est effectivement quelque chose qui est vraiment très bien. Qui porte ses fruits. Je voudrais revenir juste un instant sur le financement demain. Quel sera demain le financement du jardinage à l'école? Aujourd'hui, c'est les municipalités, c'est les hôpitaux. Demain, il y a une chance, peut-être ce sera les entreprises. Les entreprises possèdent dans la ville à peu près 30% des surfaces végétalisées à travers de leur jardin. demain, elles seront obligées d'améliorer le cadre de vie dans un environnement un peu stressant et donc d'investir dans leur espace de vie. Ils vont aussi, pour garder leurs salariés, vouloir que la ville dans laquelle ils sont soit vivable. Et donc peut-être que demain, par le sponsoring, elles dépenseront moins d'argent dans le foot, dans un événement sportif, ouais. Et plus dans les actions liées à la nature. Donc pas ricochet, pas ruissellement. L'école en bénéficiera, les hôpitaux, l'ortithérapie en bénéficiera également. Il y aura des solutions de sponsoring privé, soit des fondations, des fonds de dotation, des entreprises. Mais il faut être optimiste. Il faut être optimiste parce qu'il y a un changement du financement qui aujourd'hui repose essentiellement soit sur du bénévolat, sur de la gratuité, sur des associations ou sur des collectivités qui sont motivés, mais parfois limités dans leurs investissements. Le champ du sponsoring va s'ouvrir demain. Donc, je suis très optimiste pour les enfants, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, ouais. Mais également pour l'ortithérapie.
Alors, si vous dites ça, c'est quand même qu'il y a des soucis de financement. Est-ce que c'est ce que vous avez pu observer, vous, Mathieu Bellet?
Oui, c'est toujours très compliqué hein, de financer des projets dans le cadre de l'école ou à côté, hein, éducatifs, associatifs, de manière générale. Ouais. On n'est pas dans des périodes fastes pour ce genre de développement. C'est vrai que on s'en remet avant tout à la subvention publique, qui est quand même le premier élément important de financement. Mais on voit bien que ça ne suffit pas, ça ne suffit plus, et que souvent ça demande de plus en plus d'efforts aussi pour pouvoir monter les dossiers, et efforts qui retombent souvent sur les enseignants qui ont déjà beaucoup à faire pour monter ce genre de projet. Et on le voit aussi hein, sur les séjours scolaires, par exemple, hein, la difficulté administrative à monter ce genre de projet, à monter les partenariats, à avoir les autorisations, et après à pouvoir sortir de l'école, il faut des accompagnateurs. Donc c'est toujours beaucoup de choses. On voit en effet un certain nombre d'acteurs privés qui s'intéressent à la question. Il y a un collectif de fondations qui ont lancé un appel qui se revient tous les ans, qui s'appelle Grandir en lien avec la nature, qui va financer ce type de projet. On voit qu'il y a aussi du côté de l'urbanisme des choses qui se mettent en place, parce que les enjeux, c'est bien simple de le dire, hein, les enjeux sont grandissants, tout le monde va devoir se préoccuper de ces questions-là et trouver des solutions. Mmh. Et là, on voit bien que la solution, elle est intéressante de tous les points de vue, hein. Parce qu'on a parlé d'aménagement pour lié au réchauffement climatique, hein, mais les enjeux autour de l'eau et de la perméabilisation des sols sont clés dans nos villes de demain. Le fait de faire des îlots de fraîcheur, tout ça sont autant d'éléments qui vont créer du bien-être et de la résilience par rapport à la situation qui va aller de plus en plus complexe si on ne met pas en place ce genre de solution.
Je vois que le temps passe et qu'on arrive doucement à la fin de cette émission. Jean-Sébastien Griffaton, pour évoquer la semaine du jardinage pour les écoles, concrètement, qui peut participer? Est-ce que ce sont aux enfants de réclamer ça à leurs professeurs, aux directeurs d'établissement, ou alors ça fonctionne différemment?
Alors, peuvent participer toutes les classes de maternelle et primaire sur la France métropolitaine,
ouais.
qui en font la demande auprès de CMAE quelques mois à l'avance. Les jardineries se déclarent quelques mois à l'avance. Nous voulons accueillir et nous avons un potentiel d'accueillir 10, 20 classes. Il y a même une école, une jardinerie qui accueille jusqu'à 50 classes pendant une semaine. Les écoles, après, on ouvre un agenda et les écoles peuvent s'inscrire gratuitement.
Oui.
On est sur la règle du premier créneau pris. Donc malheureusement, il y a des déçus. Tous les créneaux les créneaux sont tous pleins. On a l'ambition effectivement d'ouvrir à davantage de points d'atelier l'année prochaine. Nous sommes à 500, on voudrait passer à 600, 750, parce qu'il y a une demande. Mmh. Il y a plus de Bien entendu, il y a plus d'ateliers dans les zones périphériques de grandes villes que dans pleine campagne, parce que il y a plus de jardinerie. Donc, parents d'élèves, n'hésitez pas effectivement à faire remonter à votre enseignant et demandez-lui de s'inscrire pour l'année prochaine, s'il ne le fait pas cette année.
Bon, on accueille Anne au 04 72 38 20 23. Bonjour Anne.
Oui.
Bonjour, vous êtes à l'antenne. Il faudrait couper votre radio derrière si ça vous
D'accord,
dérange pas.
Okay. Donc voilà, moi j'appelle pour évoquer toutes les petites questions qui parlent du soin et du temps qu'on consacre quand on s'occupe de quelque chose de vivant.
Oui.
Et donc je vous entends pas du tout en parler, alors que ça peut être un des freins qui empêche pas que ça commence, mais que ça continue les projets de jardin. Puisque quand il y a un événement comme créer un jardin, rassembler dans l'enthousiasme d'un événement, là on va trouver du monde, mais une fois que c'est en place, eh bien c'est là que commence la vraie histoire du jardinage, d'être attentif, d'être présent, et puis il y a du nettoyage aussi, et donc si on parle de jardinage sans parler de nettoyage, c'est un peu comme si c'était du jardinage théorique, non ?
Eh bien, c'est très intéressant et vous soulevez une question pertinente et je me tourne vers vous, Mathieu Bellet. Et elle a raison, je pense, Anne, de rappeler que le jardinage, ça ne s'improvise pas, même s'il faut quand même tester. C'est ce qu'on répète chaque vendredi dans l'émission de jardinage, prenez-en de la graine. Par contre, ça demande du temps et quand on organise ça avec des établissements scolaires, là aussi, ça nécessite du temps qu'on n'a pas.
Oui, tout à fait. Hein. Et il s'agit assez régulièrement d'expérimentations hein, et qui ne peuvent pas donner in fine un jardin qui va permettre d'être pérenne, hein, malheureusement. Moi, j'ai tendance à penser que chaque expérience, chaque tentative est déjà quelque chose qui va être intéressant. Et évidemment, on en parlait tout à l'heure, hein, l'aspect partenarial est intéressant pour pouvoir maintenir un peu le projet dans la durée, ainsi que l'aspect échange entre classes, projet d'établissement. Moi, je vois, il y a des exemples sur le secondaire. C'est des choses qui sont nées pendant le Covid, par exemple, où des balcons de collège sont devenus autant de carrés potagers. Où d'abord c'est le prof de sciences qui s'en occupait, puis le professeur de technologie y a trouvé un intérêt, puis le professeur de français y a trouvé un intérêt. Et en fait, on a fait des maths parce que c'est extrêmement intéressant de faire des maths quand on fait du jardin, et etc., etc. Et qu'en fait, ce projet, c'est bien un projet d'enseignement. Il s'agit pas d'aller dehors faire autre chose que d'enseigner. Il s'agit d'aller dans un jardin et d'utiliser le contexte du concret pour enseigner. Alors oui, il doit exister un peu partout en France des tentatives de jardins qui sont devenues autant de petits terrains vagues. Fait d'y aller de temps en temps est forcément pas suffisant, mais ça crée d'autres choses et d'autres éléments et la biodiversité y trouve toujours son compte.
Si Jean-Sébastien Griffaton, avant de se quitter, rappelons juste pour la semaine du jardinage pour les écoles, le plus simple pour retrouver plus d'informations, c'est d'aller sur le site jardinons-alecole.org, hein, c'est bien ça?
C'est bien ça, vous y retrouverez toutes les informations, les lieux où vos enfants pourront aller. N'hésitez pas à retourner en jardinerie après l'atelier pour pouvoir voir la diversité du vivant et mettre en place votre jardin. Et n'oubliez pas que dans un temps d'inflation, le meilleur qualité-prix au niveau de l'alimentation, c'est de faire soi-même son potager.
Voilà.
Effectivement, on y passe du temps. Effectivement, il faut nettoyer, il faut composter, bien entendu. Mais vous aurez des légumes en quantité, vous aurez des légumes sains, vous aurez la diversité, la biodiversité dans votre jardin. Donc jardinez, jardinez, jardinez encore, toujours.
Mathieu Bellet pour le réseau FREN. Rendez-vous sur fren.org, hein, comme l'arbre, je tiens à préciser. Ce sera plus simple pour retrouver plusieurs informations. Je rappelle pour celles et ceux qui découvrent cette émission ce matin que chaque vendredi, j'ai la joie de présenter une émission de jardinage où vous avez la parole pour venir poser vos questions à des experts de jardinage. C'est le vendredi à 10h et l'émission s'appelle « Prenez-en de la graine ». On va tout de suite accueillir notre chroniqueur. Et alors que le mois de février a été le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial, c'est ce qu'a annoncé jeudi 7 mars l'Observatoire européen du climat Copernicus, on reçoit Julien Deséco, le directeur de publication du média Sans Transition, qui a suivi cette actualité à la veille de la Journée mondiale de l'eau. Bonjour Julien.
Bonjour Melchior.
Alors cette nouvelle actualité climatique confirme le dernier rapport du GIEC sorti il y a un an, en mars 2023, avec une accélération du changement climatique.
En effet, sans surprise, le mercure continue de battre de nouveaux records, Melchior, et ce, avant même la saison estivale. La moyenne de la température de l'air relevée par l'Observatoire du climat s'est élevée à 13,54 degrés, soit 1,77 degrés de plus qu'un mois de février moyen entre 1850 et 1900. Ce nouveau record dépasse de 0,12 degrés le précédent de 2016. Il s'inscrit dans une série de températures maximales mensuelles de chaleur consécutives enregistrées par Copernicus, alors que 2023 a déjà été classée comme année la plus chaude depuis 1850. Autre chiffre clé révélé, la température moyenne des océans atteint 21,06 degrés en février, dépassant le niveau maximal enregistré en août 2023.
Et il y a un an déjà, les scientifiques du GIEC nous alertaient tous à tout azimut sur l'urgence d'agir.
Nous sommes bel et bien au pied du mur, avait-il exprimé. Pour conserver un monde vivable pour toutes et tous, nous n'avons d'autre choix que de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs. On le sait désormais, dans tous les domaines, de la production alimentaire à la santé humaine, en passant par les économies nationales, la survie d'une grande partie du monde naturel. Tous les secteurs ont été passés au crible par les scientifiques, démontrant que les solutions sont à notre portée. La question de l'eau et de son approvisionnement, à la veille de cette journée mondiale de l'eau, était l'un des sujets clés abordés, puisque face aux sécheresses récurrentes, il va nous falloir agir vite, tant à l'échelle globale que locale.
Alors, la Journée mondiale de l'eau se tiendra donc le 22 mars, dans quelques jours. Comment agir, Julien, pour préserver davantage cette ressource précieuse ?
Les pénuries d'eau sont largement évoquées aujourd'hui. Près de la moitié de la population mondiale connaît désormais une grave pénurie pendant au moins un mois par an. C'est le dernier chiffre et ça s'intensifie. Les risques sanitaires également associés. Ce risque qui devrait s'aggraver concerne l'ensemble des régions françaises, particulièrement le sud de la France. Avec un réchauffement à plus de 2 degrés, plus d'un tiers de la population de notre zone, de cette zone de la sud de la France, pardon, pourrait par exemple manquer d'eau. Il va donc nous falloir agir à la fois sur les économies d'eau, mais aussi revoir notre approvisionnement de la manière la plus équitable possible, la plus juste forcément. La question de l'agriculture, débattue en ce moment à l'échelle européenne pour le renouvellement de la politique agricole commune et dont nous avons déjà parlé ensemble dans cette chronique, sera l'un des leviers de transformation possible de nos usages, puisque face au changement climatique, les rendements agricoles risquent de s'effondrer. Melchior, il va donc falloir adapter nos pratiques vers des méthodes, des variétés bien moins consommatrices en eau.
Merci beaucoup Julien Deséco, et on peut retrouver la conférence de Pedro Arroro, le rapporteur spécial de l'ONU sur le droit de l'eau, le 21 mars à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau à Lyon sur le site 100-transition-magazine.info. Mathieu Bellet, une solution contre ce dérèglement climatique, c'est de jardiner par exemple?
C'est de jardiner, c'est de recréer le lien avec le vivant, c'est de sortir, d'aller dehors et d'aimer la nature pour se sensibiliser à tous ces enjeux.
Et de faire aimer la nature.
Et de participer aux actions associatives.
Exactement, et de faire aimer la nature aux plus jeunes d'entre nous. Merci beaucoup à tous les deux, Mathieu Bellet, Jean-Sébastien Griffaton, d'avoir été avec nous.
Merci.
Avec grand plaisir, Mathieu Bellet, co-directeur du réseau FREN, le réseau français d'éducation à la nature et à l'environnement. Et puis Jean-Sébastien Griffaton, je rappelle que vous êtes le directeur aussi de Radis et Capucine, dont on peut retrouver plus d'infos. C'est une société sur le site radisetcapucine.com. Merci à Antoine, à l'équipe d'Angers et à Catherine qui ont permis ce matin la réalisation de Je pense donc j'agis. Je vous souhaite une très très bonne journée. On va se retrouver demain de 9h à 11h avec Madeleine Vatel. On va se poser une question: à quoi sert l'OTAN dans le contexte que l'on connaît actuellement. Vous avez d'ailleurs déjà la parole par mail à direct@rcf.fr, dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis, ou sur WhatsApp au 04 72 38 20 23. Allez, à demain.